SOSM est au menu de la tribune de la presse de ce vendredi. Il s'agit de l'ouverture mardi dernier à Kinshasa des travaux du comité préparatoire du dialogue politique en RDC. Dans son discours, le facilitateur Eden Kodjo a affirmé que ce dialogue va se dérouler dans le respect de la constitution congolaise et conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces travaux ont démarré, vous le savez, sur fond de l'appel à la journée ville morte décrétée par le Rassemblement, l'une des plateformes de l'opposition. Entre-temps, on assiste à l'exclusion de certains cadres de l'opposition par leur plateforme à cause de leur participation à ces travaux. Et pour en parler, je reçois Baudouin Saïlé. Bonsoir confrère.
Bonsoir, ça fait un bout de temps.
Merci beaucoup, vous êtes journaliste et éditeur du journal La Tchopo, un média paraissant à Kinshasa et distribué dans la partie est du pays. Joël Kadidanga, bonsoir.
Bonsoir chers confrères, heureux de vous retrouver.
Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Vous êtes éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Jean-Baptiste Badera, bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Merci beaucoup. Vous intervenez de Bukavu au sud Kivu. Vous êtes journaliste et directeur provincial du canal Futur émettant à Bukavu au sud Kivu et correspondant de l'AFP. Merci de nous recevoir chez vous. Commençons par voir comment la presse kinoise a commenté cette actualité en suivant cette revue de presse que nous présente Guy Maté.
Bonsoir. Les débuts des travaux du comité préparatoire du dialogue politique a largement dominé l'actualité cette semaine. Les événements de Butembo ainsi que la poursuite de la grève à l'hôpital des cinquantenaires de Kinshasa ont également défrayé la chronique. C'est ainsi que RadioCapi.net rapporte que lors de l'ouverture mardi dernier à Kinshasa des travaux du comité préparatoire du dialogue politique, le facilitateur Eden Kodjo a affirmé que ce dialogue va se dérouler dans le respect de la constitution congolaise et conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce site rappelle que ces travaux ont démarré sur fond de l'appel à la journée ville morte décrétée par le Rassemblement. Africa News titre « Mauvais départ pour Kodjo, Kengo boycotte un dialogue exclusif et complique les jeux ». Et ce quotidien précise que le président du Sénat et autorité morale de l'opposition républicaine et ses troupes n'ont pas effectué les déplacements de l'hôtel Béatrice à Kinshasa, où les facilitateurs togolais récusés par le rassemblement ouvraient les travaux du comité préparatoire du dialogue national tant entendu. Ce quotidien publie la déclaration d'un cadre de cette plateforme et vice-ministre à la coopération qui dit, je cite, « Nous avons fait connaître notre position lors du meeting du 14 août à Kinshasa. Nous sommes favorables à un dialogue que si ce dernier est inclusif. Autrement dit, les pourparlers doivent inclure à la fois l'UDPS, le G7 et le MLC. » Fin de citation. 7sur7.cd publie « Boycott du dialogue, finalement c'est au pouvoir que ça profite en réalité », dit M. Dumont, ambassadeur de l'Union Européenne en RDC. Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union Européenne en RDC, s'est exprimé le jeudi 25 août sur les ondes de RFI à propos du boycott du dialogue par la plupart des partis de l'opposition, à l'exception notable de l'UNC. Il a déploré l'absence de l'UDPS, du G7, du MLC et globalement du Rassemblement. Pour les diplomates européens, boycotter le dialogue n'est pas la bonne stratégie car ce serait faire le jeu du pouvoir. La presse a aussi fait état des sanctions au sein des plateformes de l'opposition. À la suite de l'ouverture des travaux préparatoires du dialogue, certains cadres de l'opposition sont exclus par leur plateforme à cause de leur participation à ces travaux. C'est le cas notamment de l'UNC de Vital Kamerhe, du PK des Moins et Congolos, du CRP de Fidel Tingomaï, exclu de la dynamique de l'opposition, et de l'ATD de José Makila, exclu de l'alternance pour la République. Sous le chapitre sécuritaire et jeune Afrique, titre RD Congo, deux personnes lynchées puis brûlées à Butembo. Deux personnes soupçonnées de vouloir rejoindre les auteurs d'une série de massacres dans la région de Beni ont été lynchées puis brûlées par la population de Butembo dans l'est de la RDC selon plusieurs sources locales. Et pour finir, sachez que l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa fonctionne désormais avec des journaliers selon la presse de ce jeudi. C'est la conséquence d'une grève entamée par les personnels congolais depuis juillet. Ces agents dénoncent les conditions de travail dans cet hôpital.
Merci Guy Maté, Baudouin Saïlé, journaliste et éditeur du journal La Tchopo, un média paraissant Kinshasa est distribué dans la partie est du pays. Vous le savez, Guy Maté l'a d'ailleurs dit dans la revue de presse. L'actualité, c'est aussi cette tension qui a sévi à Butembo, au Nord Kivu, mais les activités ont repris normalement depuis hier jeudi, après la paralysie des activités pour cause de personnes qui venaient d'arriver à Butembo ont été d'abord lynchés puis brûlés vives par une foule de manifestants. Comment votre média a traité ce sujet?
Bon, c'est toujours des dégâts que la presse ne veut pas continuer à commenter à tout moment. C'est arrivé parce que il y a l'insécurité, les gens se suspectent entre eux et on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais j'ai suivi le maire de la ville de Butembo qui a quand même à interpeller tout le monde à se mettre dans le calme, à ne pas déborder, brûler deux femmes, même si elles ne sont pas congolaises, ce sont des êtres humains. C'est passer vite à la besogne, hein, sans jugement, sans pouvoir les attraper. Si elles étaient attrapées en flagrant, et il a fallu que la population, le groupe là de pression puisse prendre ces moments-là et les transmettre au niveau des décideurs politiques. Vous comprenez?
Alors, la police ou la justice.
Par exemple, vous comprenez? Et ce n'est pas bon. Essayons de mettre un peu d'eau dans notre vin, parce que franchement, oui, il y a eu beaucoup de morts. 50 personnes décédées à Béni, c'est beaucoup. Mais ne débordons pas, parce que l'État existe.
Et Joël Kadidanga, éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Déplorable cas de justice populaire à Butembo, au Nord Kivu. Le vice-gouverneur de cette province a déclaré qu'il s'agissait d'une criminalité juvénile alimentée par des manipulations et intoxication des jeunes par des tierces personnes.
Très cher confrère, je crois, tout en condamnant la justice populaire, je ne suis pas d'accord, mais lorsque vous êtes dans un pays où le gouvernement a abandonné ses propres responsabilités, où le gouvernement paraît complice dans tous les massacres qui se sont déroulés à Beni, mais la population ne peut que se prendre en charge. Vous comprenez comme s'il y a une stratégie de vidage de tous les villages, de tous les territoires de Beni, pour que pendant la période décrétée de couvre-feu, que ces étrangers viennent, ou ces populades viennent habiter les terres brûlées, les terres abandonnées par la population congolaise, suite à la terreur imposée dans ces lieux-là, par les tueries qui partent dans une atrocité débordante. J'aurais aimé, dans ces contrées, chers confrères, qu'on tue par l'arme. Au bout de 30 minutes, vous mourrez. Mais ces gens vous tuent pour provoquer une douleur de telle sorte à pousser tous les autres voisins. Quand on parle de 600 tués au bout de cette année-là, vous qui avez vécu en ville, vous ne pouvez pas bien comprendre ça. Mais pour moi, les villageois, un village peut être constitué de 10-15 personnes. Mais quand on a tué 600 personnes au bout d'une année, ça voudrait dire que vous avez des milliers et des milliers de kilomètres vides. Et en conséquence, comme la population sent que notre gouvernement est complice dans ces tueries, parce que même les théories qui sont développées, qu'il s'agit des djihadistes, qu'il s'agit de ceci, les djihadistes viendront faire quoi chez nous? Dans quel pays avons-nous imposé une domination pour qu'ils réagissent? Et quels djihadistes qui ne revendiquent pas leur propre tuerie, mais qui les laissent?
Merci, cher confrère. Jean-Baptiste Badera, vous êtes journaliste et directeur provincial de Canal Futur, émettant à Bukavu, au Sud Kivu, et correspondant de l'AFP. Comment vous avez analysé cette actualité qui sévit au Nord Kivu, à Butembo?
Oui, cette actualité est très exploitée ici à Bukavu, que ce soit dans les médias ou dans les places publiques. Il y a d'abord cette mobilisation autour des victimes de Beni et même de Butembo. Il y a le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu qui a déjà réuni de bien en vivre et non vivre pour assister les populations de cette partie de la province du Sud Kivu. Il y a également l'UNC, le Parti Politique Union pour la Nation Congolaise, qui a également réuni des moyens pour aller assister cette population. Et selon son secrétaire fédéral, c'est ce soir qu'ils vont aller à Goma pour se rendre demain à Bini et remettre ses dons aux populations qui sont en difficulté dans cette partie de la République démocratique du Congo. Donc, ce sont encore des actes de compassion, des messages de compassion à l'endroit de ses compatriotes. Et on a parlé de terroristes. Or, quand vous voyez les modes opérandi de ces gens, en tout cas, les modes opérateurs ne ressemblent pas aux modes opérateurs terroristes. Donc, on doit voir ailleurs et je crois qu'on doit mettre du sérieux dans la gestion de cette crise à Beni.
Alors, Jean-Baptiste Badira, très rapidement, avant que l'on aborde notre premier thème, la première partie de notre thème unique de ce soir, à part la mobilisation, la forte mobilisation initiée par la société civile du Sud Kivu pour soutenir la population de Beni, qu'est-ce qui fait aussi l'actualité à Bukavu où vous êtes?
L'actualité, c'est toujours l'insécurité qui continue ici au Sud Kivu. Il y a le territoire de Kabare sur l'axe nord, donc vers Kavumu, pour ceux qui connaissent la ville en allant vers l'aéroport. Il y a des massacres qui continuent dans cette partie de la ville de la province du Sud Kivu, également à Katana, mais aussi dans la plaine de la Ruzizi, il y a l'insécurité qui est signalée là-bas, mais aussi dans les territoires de Fizi où les communautés, en tout cas, vivent à couteau tiré. Il y a la communauté Banyamulenge qui a dénoncé le vol de ce bétail dans le territoire des Fidji. Il y a également les autres communautés qui disent que c'est faux, que ce sont des accusations non fondées. Il y a donc cette insécurité qui caractérise actuellement plusieurs territoires de la province du Sud Kivu.
Merci.
C'est ça l'actualité. Mais aussi, il y a de cela quelques secondes, quelques minutes, je voulais dire que les gens, les fonctionnaires d'État sont en train de disperser devant la BIAC parce qu'ils réclament leur salaire. Et là, il y a même des chiens qui sont mis en œuvre pour chasser ces fonctionnaires, ce qui en tout cas fait la honte du pays. Ce n'est pas
Merci.
Normal que des gens puissent être chassés parce qu'ils réclament leur salaire de cette façon-là. En tout cas, c'est très dommage.
Merci, cher confrère. Le coup d'envoi des travaux du comité préparatoire du dialogue national pour 5 jours a été donné mardi dernier à Kinshasa. C'était en présence des mandataires de la majorité, de l'opposition, de la société civile ainsi que du groupe de soutien aux facilitateurs. À l'occasion, le facilitateur Edem Kodjo a prévenu les Congolais de la crise qui guette le pays et les a invités à réfléchir autour de l'organisation pacifique des élections crédibles et transparentes. Il souhaite voir l'autre frange de l'opposition rejoindre les autres en précisant que ce forum va se dérouler selon la Constitution et la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Ces propos ont été recueillis par Jeff Ngroy.
Mais comment ne pas souligner pour le regretter que la famille congolaise ne soit pas entièrement réunie dans la maison commune. Notre patrimoine à tous, sachant que les portes largement ouvertes de notre enceinte sont prêtes à accueillir à tout moment nos frères encore absents à qui nous tendons les pommes ouvertes de la fraternité. Pour ce processus de dialogue qui se tiendra conformément à la Constitution congolaise et à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le comité préparatoire a pour objectif principal de préparer l'aspect normatif, matériel, logistique du dialogue national.
L'appel à une journée ville morte mardi dernier par une frange de l'opposition congolaise a eu des effets sur le déroulement de la journée à Kinshasa. La quasi-totalité des magasins sont restés fermés, les grands marchés n'ont pas connu l'engouement habituel. Les tenanciers des magasins, eux, dénoncent un manque à gagner dans leurs affaires. Jean-Désiré Kanyama a fait la ronde de la ville et il nous raconte son récit.
Eh bien, cet avant-midi, nous avons visité notamment les bureaux des ministères de la fonction publique, des affaires étrangères, ainsi que du travail de la prévoyance sociale. Les quelques agents trouvés sur ces lieux nous ont signalé qu'ils y étaient pour signer la liste de présence. Au ministère de la Justice, par contre, le travail s'est déroulé normalement. Côté entreprises étatiques et para-étatiques, notamment à l'OCC, à l'OGEFREM et à la SONAS, la situation était plus ou moins normale, certains bureaux étant fermés et d'autres ouverts. Cependant, les marchés ont été plus affectés, de même que les commerces et les transports. Au marché central communément appelé Zando, presque tous les magasins étaient fermés. La situation était pareille au niveau du rond-point Forestcom jusqu'à peu. Cependant, on pouvait apercevoir des vendeurs à la sauvette au marché central et encore un peu plus nombreux au marché Gambela, où les magasins des électroménagers et autres divers étaient ouverts. Mais le constat est qu'il y a eu une faible fréquentation des clients, d'où un manque à gagner dénoncé par les commerçants. Pour ce qui est du transport en commun, les grandes artères de la capitale ont revêtu leur robe de dimanche, c'est-à-dire pas une grande affluence fréquence des véhicules de transport en commun et même des particuliers observés à travers la ville.
Merci Jean-Désiré Kanyama. Notez que dans les autres provinces du pays, la population congolaise a répondu de manière diverse à cet appel. Si au centre du pays, quelques actes pour paralyser la ville de Mbujimayi ont été signalés, il n'en a pas été le cas dans la majeure partie de l'est du pays et à l'ouest comme à Kikwit. Baudouin Saïd est journaliste et éditeur du journal La Tchopo, un média paraissant à Kinshasa et distribué dans la partie est du pays. Les travaux du comité préparatoire ont été lancés sur fond de la ville morte. Comment avez-vous décrypté ce message?
Cher confrère, je suis un des témoins privilégiés de la politique de ce pays depuis longtemps. Même à l'époque, nous avons été à la conférence nationale souveraine avec Monsengo comme président et nous sommes passés au Parlement. Et j'ai dit qu'à l'époque, en 1921, c'est à cette époque-là que la ville morte avait de l'ampleur, sous le maréchal de l'ex-Zaïre. Mais cette stratégie de la ville morte ne paie plus aujourd'hui, parce que ça n'a pas produit des effets escomptés depuis 25 ans déjà. Je demande à mes frères de l'opposition, à l'opposition il y a des juristes, il y a des éminences grises, qu'ils puissent un peu changer de stratégie. Et aujourd'hui, lorsqu'on demande à l'air de rester à Bandal chez lui et de ne pas venir à Okapi, mais qui va acheter le petit pain pour les enfants d'eux? Allez, moi, ce jour-là, j'ai laissé ma voiture à la maison, parce que le matin, il y avait du bruit, les gens avaient peur de ce qui se passait à Limité. J'ai pris la moto, je suis arrivé à l'ex-Onatra, où le monde était là, j'ai discuté avec les autorités de Onatra, il y avait un peu de monde, mais moi, je me dis, mais pourquoi la ville morte? On monte une telle stratégie pour aboutir à quel résultat positif pouvant pousser le pouvoir à changer de méthode? Non.
Et donc ça n'a pas d'effet pour vous?
Non.
Alors Baudouin Saïd, la ville morte a eu lieu, mais entre-temps, cela n'a pas empêché le lancement des travaux du comité préparatoire du dialogue national. On est au deuxième jour de ces travaux et les acteurs politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition n'ont pas trouvé de consensus sur l'introduction ou non de la notion d'alternance politique.
Chers confrères, l'opposition doit exister conformément à la loi. Parce que la loi dit l'opposition c'est le contrepoids du pouvoir. Mais la bonne opposition chez nous, je ne sais pas c'est quoi au juste. Aujourd'hui, on peut aller au dialogue, ne plus que pour discuter de la sécurité à l'est du pays, où nos frères sont en train de mourir. Mais vous ne voulez pas venir discuter de la sécurité du pays et vous restez à l'extérieur. Vous êtes patriote ou pas?
Alors nous allons revenir sur cet aspect, mais il y a cette notion d'alternance qu'il faut insérer. Finalement, l'objet de ce dialogue, c'est quoi?
Le dialogue doit être organisé pour essayer de décortiquer les mots qui rongent le processus électoral dans notre pays. Le chef de l'État, depuis qu'il a prononcé son discours, il y a déjà une année, mes amis, venez autour de moi, autour de la table, parce que là où nous allons, il y a des couacs. Mais venez pour discuter de tous les problèmes de la République. La gestion de la République, l'alternance, toutes les élections, parce que l'alternance doit intervenir après les élections. Mais dans 3-4 mois, ça sera la fin du mandat du chef, mais l'alternance va intervenir comment? Avec la guerre, avec des villes mortes, avec la désobéissance populaire? Non. Ne prenons pas notre peuple en otage, réunissons autour de la table pour que nous nous disions la vérité, toute la vérité. Et c'est pour cela que je donne raison à ce professeur d'université qui a dit qu'au Congo, pourquoi ne pas utiliser la démocratie africaine?
Joël Kalidanga, éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa, quel message vous avez pu décrypter du fait d'avoir et la ville morte et l'ouverture des travaux du comité préparatoire du dialogue?
L'annonce de la ville morte était pour faire pression sur les facilitateurs pour qu'ils puissent comprendre que les gens n'étaient pas d'accord avec lui dans la manière où il a convoqué hâtivement.
A-t-il reçu le message selon vous?
Non, depuis longtemps il n'a pas reçu le message. Et le jeu qu'il joue n'est plus caché de tous parce qu'on s'est rendu compte, lorsque vous êtes un médiateur dans une situation, je suis encadré de couple, j'ai des couples que j'encadre, et lorsque la femme vous dit que papa, moi je ne vous écoute pas. Mais c'est question de reporter, de vous déporter, même en justice, lorsque un magistrat est récusé par une partie, il se déporte. Lorsque un avocat est récusé par sa cliente, il se déporte. Mais ici, vous sentez un entêtement qui cache pratiquement un acharnement vers un objectif bien déjà connu. Et parce que il y a eu quelques préalables que l'opposition a posés. Et ces préalables, mon frère, ce n'est pas aller au ciel, ce n'est pas traverser l'océan Indien, ce n'est pas traverser, ce n'est pas marcher sur les eaux. Le préalable, c'est tout simplement demander aux prisonniers politiques et d'opinion arrêtés d'être libérés. Autant que Yves Bakwambala. Mais vous allez constater que les facilitateurs, qui devraient être église au milieu du village, lui-même a pratiquement co-présidé la conférence de presse organisée par Tambwe Mwamba. Bon, vous allez dire qu'il est de quel camp. Et comment voulez-vous que les gens qui ont posé les préalables, aujourd'hui la chaîne de Seka TV n'est pas ouverte jusqu'aujourd'hui, la chaîne de Canal Futur n'est pas ouverte jusqu'aujourd'hui, et sur la liste, moi, je suis ami personnel à quelques-uns, notamment l'artiste Radek, qui est sorti de la prison depuis octobre de l'année passée, si je ne me trompe pas. J'étais avec lui à Rond-Point Victoire. J'étais à Lubumbashi au mois de mai avec Paul Kikuka Manjoloko, qui est déjà sorti de la prison. Et de tous ceux qui ont été présentés comme prisonniers libérés par le pouvoir, il n'y a que Christopher Ngoï, que j'ai vu qui continue encore à être en prison, Yves Bakwambala, Fred Bauma et Kalonji, sont les réels prisonniers libérés et qui étaient présentés dernièrement par le gouvernement à travers son porte-parole comme les terroristes. Mais ça coûte quoi pour décrisper la situation? Au Sénégal, ça a été fait. Dans d'autres pays, chers confrères, ça a été fait. Ça coûte quoi au gouvernement d'ouvrir les chaînes de télévision et de radio? D'ailleurs, Canal Futur, proche de Vital Kamerhe, avait été présenté qu'il avait escroqué la fréquence d'autre. Mais on l'a, lui a remise. Pourquoi ne pas remettre RTL Joua? J'étais à Lubumbashi, il faut voir, je suis un des responsables de médias au niveau de l'UNPC, mais il faut voir comment nos confrères souffrent. Et quand on ferme les médias là, on ne pense même pas aux familles des agents, des cadres qui travaillent dans ce média, qui vous souffrent, dont les enfants sont à l'école et dont leur vie ne dépend de ces médias. Mais pourquoi on ne peut pas ouvrir? Et là, on n'ouvre pas. Mon doyen, qui a été parlementaire, qui a vécu, il a bien dit ici qu'il était témoin. Mais ça vous coûte quoi? Même en 1960, il a été demandé au père de l'indépendance d'aller en Belgique pour la table ronde. Ils ont exigé qu'on ne peut pas faire la table ronde aussi longtemps que Lumumba, un syndicaliste, est en prison.
Et donc pour vous, tout ça est déjà voué à l'échec?
Non, parce que je peux vous rappeler les objectifs du dialogue, ce n'est pas la sécurité comme le confrère l'a dit. Le président de la République avait dans son discours précisé 6 points qui devraient être traités au dialogue. Le premier point, 1, financement du processus électoral. C'est déjà fait, vous avez vu, le gouvernement mettre à la disposition de la CENI tous les moyens nécessaires pour que l'on commence. 2, c'était la sécurisation du processus électoral. On ne peut pas parler de la matière de sécurité. D'ailleurs, nos frères qui sont au Bas-Congo voient les cargaisons militaires qui descendent pour sécuriser les élections. 3, le calendrier électoral. Le chef de l'État a déjà vidé ce point en disant que ça sera après la révision du fichier électoral. Et 4, le fichier électoral. Et 6. Donc, vous allez comprendre que tous les points inscrits à l'ordre du jour, selon le dialogue convoqué par le chef de l'État, ont été déjà vidés. Et que là, c'est là où le bas blesse. C'est là.
Et donc, il ne faut parler que de l'alternance.
L'alternance. Et l'alternance, vous avez compris, la majorité, son plan,
merci,
c'est tout simplement d'obtenir un compromis qui accordera au-delà du 19 décembre, merci, un mandat supplémentaire au président de la République, au-delà de ces 2 mandats légaux qu'il a déjà effectués,
merci,
comprenant qu'on ne peut pas organiser les élections. Il y a eu refus délibéré d'organiser les élections,
merci,
pour obtenir un mandat, mais dans des conditions de partage du pouvoir. Parce que tous ceux qui sont partis au dialogue, je vous dis, il n'y a pas de conviction, mais par contre,
merci,
vous pensez qu'on court derrière les postes, le partage du pouvoir.
Merci Jean-Baptiste Badir, journaliste et directeur provincial de Canal Futur, émettant à Bukavu, au sud Kivu, et correspondant de l'AFP. On est déjà au deuxième jour. Pour l'opposition, c'est bien de l'alternance politique, il faut discuter au dialogue, parce que le président Kabila va achever son deuxième mandat. De son côté, la majorité estime que le dialogue doit discuter de l'organisation des élections qui pourraient aboutir à l'alternance. Comment vous comprenez tout ça?
Moi, je comprends tout ça comme presque la même chose. Hein. L'alternance, c'est pour le départ du président Kabila, qui est pratiquement son deuxième et dernier mandat. Et l'opposition qui, elle, parle de l'alternance du calendrier, moi je crois que les deux sont en train de converger vers la même direction. C'est peut-être la date exacte pour la tenue des élections qui fait encore défaut, Et le grand problème reste que jusqu'à présent, le président Kabila n'a pas encore dit. Et après ces mandats, je ne serai plus candidat. C'est là le grand problème. Le jour qu'il dira ça, ça va décrisper la situation. Et je crois que ça va apaiser beaucoup de tensions. Aujourd'hui, vous constatez que c'est déjà le 19 septembre prochain qu'on doit organiser le scrutin, parce que la Constitution, selon l'article 73, si je ne me trompe, on doit convoquer le scrutin 90 jours avant la fin du mandat. Et donc, il nous reste pratiquement, si on peut compter, calendrier, c'est 23 jours. Est-ce que dans 23 jours, on est encore capable de faire ces élections-là? Je ne pense pas, au vu de la situation, au vu des déclarations de la CENI, et même au vu des tergiversations de certains politiciens. Donc, moi, je crois qu'ici, il s'agit de chercher un consensus pour voir comment on va arriver à avoir un calendrier consensuel. On peut rallonger, parce que là, c'est presque clair qu'il y aura cette rallonge-là. On ne peut pas se voiler la face, en tout cas. Par le temps qui court, on constate que le contexte ne va pas permettre des élections dans le délai. D'ailleurs, la CENI l'a déjà dit. À moins que les autres qui récusent pratiquement tout et qui disent qu'il faut, coûte que coûte, que les élections soient organisées à ce délai-là, et au cas où ce ne serait pas organisé, qu'est-ce qui va arriver aux Congolais, c'est là le problème. Donc il faut voir comment éviter aux Congolais le drame, le pire, parce que je ne vois pas quel politicien qui est prêt à ajouter un génocide ou un assassinat ou un mort sur son CV. Je vois mal comment, en tout cas, on va négocier ce virage si ce n'est pas par ce dialogue. Et je crois ici qu'on doit être dans la résolution 2977 des Nations Unies qui, en tout cas, enjoint aux politiciens congolais de faire le dialogue pour résoudre la crise politique en vue dans le pays.
Alors, Baudouin Saïlé, Jean-Baptiste Badera y faisait allusion tout à l'heure. Quelle est votre perception lorsque Edem Kodjo déclare que ce forum va se dérouler selon la Constitution et la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU?
Chers confrères, moi je ne comprends pas, franchement, pourquoi nous, Congolais, nous ne pouvons pas nous prendre en charge depuis 56 ans d'indépendance. Edem Kodjo, c'est un frère africain qui est venu chez nous, non par sa propre volonté, mais par la volonté de la classe politique, surtout celle de l'opposition. Mais aujourd'hui, notre frère, qui a aussi des charges chez lui, au Togo, abandonne et sa famille et son pays pour venir à notre rescousse. Pourquoi nous devons le mettre mal à l'aise? C'est ce qui m'étonne. Non. Hier, sur Radio Pacifique, j'ai suivi un débat où il y a 10 intervenants. Parmi ces 10 intervenants, il y a 7 qui ont dit ceci: la politique de la chaise vide ne paye pas. Si vous ne venez pas, vous n'êtes pas un extraterrestre. Venez autour de la table pour discuter du devenir de notre pays. Le Congo, ce n'est pas le pays des Edem Kodjo. Il a dit la famille congolaise. C'est nous la famille congolaise. Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous regarder en face pour aller de l'avant? Alternance, guerre à l'Est, processus électoral, ce sont des problèmes des Congolais. Mais aujourd'hui, nous appelons un Africain qui est appuyé par la communauté internationale et nous le récusons. Nous ne sommes pas presque sérieux quelque part.
La participation de certains cadres de l'opposition aux travaux préparatoires du dialogue leur attire des représailles de la part de leur plateforme. C'est entre autres le cas de l'UNC de Vital Kamerhe et le PK de Moïse Kongolo, exclu de la dynamique de l'opposition, ainsi que l'ATDR de José Makila, exclu de l'alternance pour la République. Nico Kalambay nous en donne les détails.
Commençons par le communiqué de la dynamique de l'opposition de ce jeudi, dans lequel cette plateforme dit prendre acte de l'auto-exclusion de l'UNC de Vital Kamerhe, du CRP de Fidel Tsingomaï, du PK de Moïse Kongolo et de la DT de José Makila, professeur Freddy Matungulu, modérateur de la dynamique de l'opposition.
Tous ces groupes aujourd'hui participent, prennent part aux travaux du comité préparatoire du dialogue. Alors que la dynamique a indiqué clairement que tant que les préalables que nous avions retenus au niveau du rassemblement ne sont pas réunis, nous ne sommes pas partie prenante à cet exercice.
En réaction, l'UNC, par son porte-parole, dit ne pas être au courant de cette décision. Jolino Makilele.
Je n'ai pas connaissance de cette information. L'UNC est et demeure membre cofondateur de la dynamique de l'opposition, et je ne vois pas en vertu de quelles dispositions, de quels textes, l'UNC peut souffrir le plaisir de quitter la dynamique ou même de se faire exclure.
L'ADT de José Makila est aussi exclu de l'Alliance pour la République, AR. La décision a été rendue publique hier mercredi. D'après son président intérimaire, la libre décision prise par le président de l'ADT traduite par sa présence à l'ouverture des travaux préparatoires du dialogue, est en contradiction avec la ligne politique prise par le rassemblement de l'opposition. Terminons par cette mise au point du groupe parlementaire UDPS et Alliés, qui affirme n'avoir mandaté personne au comité préparatoire du dialogue, dont les travaux ont débuté mardi à Kinshasa. S'il y a quelqu'un de cette instance, il s'y trouve à titre personnel et ne peut engager notre regroupement, souligne Papi Nyango, le rapporteur de cette structure.
Merci Nico Kalamba et Joël Kadedanga. Selon, il faut ajouter la réaction de l'opposition républicaine qui, dans une déclaration mardi dernier, a refusé de participer au dialogue politique dans son format actuel. Elle estime que le caractère inclusif de ce dialogue voulu par l'ordonnance présidentielle qui le convoque, ainsi que la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU, n'est pas respecté. Comment vous analysez tous ces faits?
Avant d'en arriver là, je voudrais un peu revenir au cas de Demkodjo. Lorsque vous avez dit qu'il dit que le dialogue sera convoqué selon 2277, c'est faux, c'est une supercherie, parce que le comité préparatoire se trouve dans l'ordonnance du président de la République. Donc, en ce qui concerne la résolution 2277 que j'ai lue en entièreté, il n'y a pas une seule place où il y avait un comité préparatoire. Donc, c'est pratiquement une supercherie. Et j'y reviens également pour dire qu'il est venu à notre rescousse après avoir renforcé la dynastisation de la famille Adema, où c'est une dictature au Togo. Je l'ai vu au Burundi, il a été chassé par le pouvoir, il est parti, mais il n'y a que chez nous où il est récusé par une partie de l'opposition et la plus importante, où il renforce. Cela étant, venons-en à ceux qui ont été exclus. Je crois qu'en s'engageant dans la politique, c'est pour l'intérêt du plus grand nombre. Ce n'est pas pour ses propres intérêts. Mais la classe politique actuelle, depuis 90 ou même depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous a prouvé noir sur blanc que c'est une classe politique où il y a deux gens sans conviction, sans idéal, et je ne sais même pas sur base de quoi on doit continuer à appeler certaines personnes opposants. Parce qu'on est opposant par rapport à une gouvernance, par rapport à un programme, par rapport à une idéologie. D'ailleurs, quand vous comparez les idéologies, par exemple, de l'UDPS et du PPRD, qui prennent tous la social-démocratie, en principe, ils ne devraient pas être opposants l'un à l'autre. Donc ça devrait être, en principe, deux partis qui évolueraient dans le même courant politique. Donc c'est justement pour vous dire que nous avons des opposants qui ne courent que derrière les postes de responsabilité pour avoir de l'argent. C'est vers là que vous, nos politiciens, vous nous avez habitués. Donc avoir tous les moyens et de l'État et du pouvoir pour vous permettre de vous épanouir pendant que la population souffre. C'est lorsqu'on aurait une classe politique ayant des convictions engagées que ça peut se faire. C'est parce qu'il n'y a pas de convictions que Vital Kamerhe, qui avait demandé à tous ses compères de la dynamique de l'opposition de ne pas aller dans une dynamique du dialogue qui paraissait favoriser Tshisekedi avec son fils qui était déjà donné dans la campagne de diabolisation premier ministre, et là on s'y est opposé, et comme la donne à l'interne et dans les négociations nocturnes a changé, et on peut maintenant venir vers le dialogue. Je me demande à quel niveau cette conviction a subi des modifications et merci. Pour quels fondamentaux? Même que lorsqu'on parle de nos amis de G7, personne au niveau de G7 ou tous ceux qui ont quitté le président de la République, Joseph Kabila, ne parle de la gestion. Kamerhe qui nous avait pratiquement vendu le pays à travers les contrats chinois, il nous a jamais dit ce qui se trouve dans la casserole.
Et donc, vous, brièvement, c'est un problème de conviction politique.
Donc, nous avons des politiciens qui ne voient que leurs petits intérêts et des intérêts mesquins égoïstes.
Jean-Baptiste Badera, exclusion de certains opposants qui participent au dialogue. Joël Kadedanga évoque un problème de conviction, mais qu'est-ce que vous répondez à certains observateurs qui pensent que le caractère versatile des politiciens n'est pas que la marque déposée des Congolais?
Je ne pense pas du tout que ce soit une versalité. Moi, plutôt, je pense que c'est de la réelle politique. Parce que quand mon confrère parle du G7 qui a accusé Vital Kamerhe de ne pas avoir dit clairement ce qu'il y a dans le contrat chinois, comment il a négocié, moi je pense que le même Kamerhe, je l'ai vu dans ses différentes interventions au Canada, en train de reprocher le gouvernement le ministre des Travaux publics à l'époque pour n'avoir pas été vraiment clair dans la justification de ce contrat chinois. En tout cas, j'ai encore les images avec moi. Et le G7, je ne pense pas que ce soit un modèle, en tout cas, au vu même des gens de la configuration de cette plateforme, je ne pense pas que ce soit vraiment ça le modèle, qu'on peut dire que non, là, ce sont des opposants. Quand on parle de la social-démocratie, même l'UDPS, l'UNC, le PPRD, tous sont des socialistes, mais chacun a son projet de société. Et on peut comparer les projets de société, je pense que ce n'est pas la même, ce n'est pas du copier-coller, en tout cas. Donc, je ne vais pas trop insister sur les individus, mais quand on parle de la dynamique qui exclut certains de ces composantes, moi je ne pense pas que ça soit une solution, parce que aujourd'hui je ne sais pas si on chasse par exemple, comme on l'a dit, je viens de suivre Jolino Makiel dire qu'eux ne sont pas concernés, ils ne sont pas au courant de cette exclusion. Je ne sais pas, en chassant l'UNC, qu'est-ce qui va encore rester, parce que les grands animateurs de cette plateforme, en tout cas dans toutes les manifestations qu'on a vécues au pays depuis le mois de janvier 2015, c'était le parti phare, c'était le chef d'orchestre de cette dynamique de l'opposition. Je vais voir demain ou après-demain comment cela va évoluer, mais dire que quand même, qu'est-ce qui est arrivé qu'il change, moi, j'ai l'ai suivi dans un média ici intervenant sur une chaîne, il a montré clairement qu'il a changé de position au lendemain du 30 mars, lorsque on a signé, voté la résolution 2277, quand la communauté internationale, qu'ils ont tous demandé, que ce soit l'UDPS, l'UNC, l'autre partie de l'opposition, que ce dialogue jouisse de la facilitation de la communauté internationale. Et à partir du moment où la communauté internationale s'est engagé à accompagner les Congolais dans ce dialogue, il a changé de position par lui, je le cite pas, je l'ai suivi dans ces médias-là, on ne peut pas se mettre dans une sorte de guerre avec la communauté internationale, parce que la réalité montre que le Congo n'a jamais gagné une guerre contre la communauté internationale qui veut nous accompagner pour sortir de cette crise, parce que au cas où nous arrivons le 19 décembre 2016 et qu'il n'y a pas d'élection, j'ai vu l'UDPS gagner les élections, seront tous les observateurs internationaux qui ont prouvé que l'UDPS a gagné, mais là je n'ai pas vu, alors qu'on était à deux doigts, à deux pas de la présidence, je n'ai pas vu les gens marcher sur l'UDPS prendre ce pouvoir. Quand il ne l'a pas pris en 2000, comment il va le prendre sans ce dialogue? Je pense qu'il faut passer par ce dialogue pour que c'est un calendrier clair, consensuel, et qui en tout cas va permettre le départ de Kabila en douceur et pas chercher à avoir un départ qui sera suivi des drames et des massacres dans le pays.
Merci, Baudouin Saïdé. Pour revenir aux travaux du comité préparatoire, hier jeudi, c'était le deuxième jour, et toutes les parties ont également sont aussi d'accord pour ajouter un nouveau thème dans l'agenda. Il s'agit de la nécessité d'un accord politique et des mécanismes de sa mise en œuvre. Ce sujet traitera aussi du point relatif à la continuité de l'État au cas où l'élection présidentielle ne se tiendrait pas dans les délais de la Constitution. Qu'est-ce que vous répondez à certains observateurs qui pensent que cette incise est controversée et dangereuse?
Nous ne sommes pas au ciel. Nous sommes sur la terre des hommes, la terre d'imperfection, où il y a toujours des problèmes. Mais lesquels trouvent des solutions si les gens s'aiment? Si on regarde dans la même direction.
Et donc il faut être réaliste.
Nous devons être réalistes, nous devons être compréhensifs. Vous comprenez? Je reviens un tout peu en ce qui concerne les partis politiques. Hein. En France, par exemple, lorsqu'on devient politique, il faut disposer des moyens de sa politique. Exemple, M. Le Pen, le patron de Front Nationaliste avec sa fille et tout ça et tout. Ce sont des milliardaires. Ils ont de l'argent, ils ont des comptes fournis. Mais chez nous ici, on fait la politique
du ventre.
On fait la politique du ventre. D'abord, on caresse le pouvoir. Dès qu'on accède au pouvoir, on devient ministre, on attrape un peu d'argent. Et après, on quitte le pouvoir, on devient opposant. C'est comme si, à l'opposition, c'est la blanchisterie. Voilà, et puis le peuple voit ça. Le peuple dit que ce sont des gens qui ne sont pas... Ils ne sont pas responsables. On est au pouvoir. On est politicien, membre du pouvoir. Mais il faut y demeurer, même s'il y a
des problèmes. Rester cohérent avec soi-même.
N'est-ce pas? Alors, lorsqu'on quitte le pouvoir pour aller vers l'opposition, non. Ça, c'est la distraction qui date depuis l'époque de la conférence des Nations Unies. Nous disons ceci. Chers amis, chers frères, la République nous appartient. C'est notre œuf que nous devons bien le soigner. Si ça se casse, ça sera l'hécatombe. Nous ne voulons pas l'hécatombe. Alain, je vous assure, hein, je suis témoin des tueries à Bouta, aujourd'hui chef-lieu de Bazouilé. On avait tué un chef de cité à fleur de l'âge.
Alors qu'est-ce que vous voulez vous dire comprenez? Par là? Qu'est-ce qu'on devrait retenir pour vous en guise de leçon?
Maintenant, soyons conséquents de nous-mêmes, prenons en charge notre république, mettons-nous ensemble. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Mettons-nous ensemble parce que la république est en train de tituber. Mettons-nous ensemble, regardons-nous en face, qu'est-ce qu'on fait? Alternance, discutons-en. Élection, discutons-en. Perdième, c'est parce que c'est le perdième, hein. Attention, hein. C'est annoncé le perdième, hein. Moi, j'en connais quelque chose, hein.
Alors, je te dis,
j'ai été conférencier, les gens se sont battus à Kisangani pour venir à la conférence de notre souveraineté à cause de perdième, hein. Perdième, parce qu'on a faim. Voilà. On a faim.
Joël Kadedanga, je posais tout à l'heure la question à Baudouin Saïlé sur cette incise où les participants aux travaux du comité préparatoire se sont mis d'accord pour ajouter un nouveau thème, notamment la nécessité d'un accord politique et les mécanismes de sa mise en œuvre. Ce sujet, je le disais, sera traité aussi ce sujet traitera aussi du point relatif à la continuité de l'État au cas où l'élection présidentielle ne se tiendrait pas dans les délais de la Constitution.
Voilà, chers confrères, l'objectif inavoué de ce dialogue. C'est tout simplement ça. Qu'on ne nous trompe pas. Ce qu'il y a ici, c'est que le pouvoir en place ne veut pas céder le pouvoir. Ni par élection, ni par la démocratie. On va aller par les subterfuges jusqu'à obtenir quelque chose. Mais avant, laissez-moi revenir lorsque mon confrère Abouka vous dit que Caméra était le parti phare de la dynamique de l'opposition.
Ne restons pas sur les débats des personnes.
Non, c'est lui qui donnait l'impression d'être leader parce que il s'isolait pour voler en vedette pour des actions convenu ensemble avec ses pairs. Plusieurs fois, le professeur Matungulu, Albert Fabrice Pouela et même Fayoul se plaignaient. Les actions menées ensemble, lui faisait le rapport et sortait pour livrer des interviews à ailleurs. Alors, revenons sur votre question pour vous dire ceci. C'est ça le vrai objectif. Et si vous voulez connaître cet objectif, comment il va se dérouler, après la transition, après la révision du fichier électoral, visitez les pages des réseaux sociaux de nos amis communicateurs de la majorité présidentielle, vous connaîtrez comment les choses vont se dérouler. Donc après, on va commencer par les élections locales. Donc, ce qui pourra nous prendre encore 3 ou 4 ans. Donc, nous aurons un 5 ans qui sera accordé au président de la République et au bout de ces 5 ans, après les élections locales, municipales, urbaines et consorts, alors on pourra passer à l'élection du président de la République, qui pourra pratiquement être organisé avec une nouvelle constitution qui pourra consacrer l'élection du président de la République au second degré.
Alors, donc voilà un peu. Entre temps, Joël Kadedanga, en guise de conclusion, le train est en marche. Peut-on considérer, en lisant l'histoire politique de la RDC, que les absents ont toujours tort et n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes?
Non, conclusion. Cette fois-ci, je ne pense pas que les absents s'en prendront à eux-mêmes. Il est temps que le peuple congolais comprenne que nous n'avons plus à placer notre confiance dans cette classe politique et que le peuple congolais devra s'y prendre seul en charge pour son destin. Rester inactif, ça sera consacrer la mort de toute une nation.
Merci. Jean-Baptiste Badera, quelle est votre conclusion?
Ma conclusion est que toute la classe politique devait se mettre ensemble et aller dialoguer parce que récuser Kodjo aujourd'hui, c'est une peine perdue, à mon avis, une bataille perdue. Pendant qu'il a confiance de la communauté internationale, il faut lire des histoires. En tout cas, une bataille contre l'international.
Dommage.
On sait que le garçon n'est pas au top, il faut qu'on puisse. Et là, on peut colmater les brèches, la question des prisonniers, des médias. Tout ça, on peut les résoudre au niveau du dialogue avec Eben Kodjo pour ne pas perdre encore le temps.
Merci, chers confrères, d'avoir participé à la tribune de la presse de ce soir qui se termine. Réalisation Guy Maté, à la technique André Mongou, supervision Pélé Kipela Mondo, coordination et présentation Alain Irung Mouchige. Merci de votre attention et bon week-end à tous. We'll